CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce MAG du pays Midi-Quercy. Aujourd'hui, René Collinet expose les travaux qu'il a entrepris dans sa bonne ville de Saint-Étienne-de-Tulmont, en particulier les entrées de bourg et le centre du bourg. Ensuite, Laetitia Morabito, qui est chargée de mission au syndicat mixte du pays Midi-Quercy, explique ce que sont les journées des quatre saisons de la forêt qu'organise le CPIE, en particulier pour connaître la réalité de l'espace forestier du pays Midi-Quercy. Mais avant eux, des annonces. Aujourd'hui même, les transports culturels du Babel-Tut vous proposent de vous amener au musée Ingres pour une visite à l'atelier bas-relief à Montauban. C'est au 06 82 43 30 82 qu'il faut s'inscrire, et peut-être pas trop tard. Comme tous les 15 du mois, jeudi 15 mars, donc, le jardin d'échange universel à Parisot à partir de 18h, c'est à la médiathèque, avec repas auberge espagnole, renseignements au 05 63 27 59 93. Vendredi 16 mars à 21h à la salle des thermes de Saint-Antonin-Nobleval, The Super Soul Brothers, c'est de la soul music, c'est organisé par l'association Même Sans le Train. C'est 10 euros l'entrée, 8 euros pour les adhérents. Comme l'adhésion est à 2 euros, ça vaut le coup d'adhérer. Les enfants d'abord organisent le carnaval des écoles à Sept-Fonds, vendredi 16 mars, à la salle des fêtes à 18h. Dans le cadre de la manifestation départementale Le Big Bang des Arts à Montricou, lundi 19 et mardi 20 mars, représentation des songes d'une nuit d'été par la compagnie Métaphore. C'est une création d'après Shakespeare, c'est du théâtre et marionnettes pour les plus de 6 ans. Ça dure 55 minutes et c'est des séances scolaires, lundi à 14h30 et mardi à 10h. Mardi 20 mars, l'association Mosaïque en Val à Saint-Antonin-Nobleval vous propose un atelier d'écriture de 14h30 à 16h30. À Montricou, toujours dans le cadre de la manifestation départementale Le Big Bang des Arts, appartement à louer par la compagnie Néchicotte de Paris, d'après le texte Léa Goldberg, toujours théâtre et marionnette pour les plus de 3 ans. Ça dure 30 minutes. C'est à la salle des fêtes de Montricou, jeudi 22 mars, à 20h30, séance tout public. Pour les scolaires, c'est le 23 mars à 14h30. Une nuit de la thermographie, vous savez ce que c'est, ça vous présente des images thermiques du village et du coup on montre tout ce qui fuit comme chaleur. C'est à la Salvetat Belmonté le 23 mars et à Négrepelisse le 27 mars, mais avant ça, à Maudière le 19 mars prochain. Le 17 mars, inauguration du salon de l'aquarelle à Caussade à l'espace Bonaïs. Et enfin, la journée forêt le 21 mars, mais Laetitia Morabito nous en parlera davantage tout à l'heure. Avec René Collinet, maire de Saint-Étienne-de-Tulmont, on va aborder la question de comment, dans une commune qui est finalement très proche d'un centre urbain qui se développe, qui mange sur les territoires agricoles pour construire, comment on peut préserver un petit peu l'urbanisme d'un village et donc définir des entrées de bourg, définir un centre, une âme. Alors voilà, est-ce qu'on se préoccupe de l'âme quand on est maire d'un village et qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, merci d'abord de m'accueillir à votre antenne. Donc je voudrais saluer aussi vos auditeurs. Et effectivement, pour répondre très directement à votre question, les élus sont amenés à un moment donné sur Saint-Étienne à faire un constat. le constat d'abord de la poussée démographique, qui part de 800 habitants dans les années 1890 pour arriver à 1100 habitants dans les années 70. Et au moment où on a on fait ce constat, par devoir finalement, nous sommes en 2000 et la commune a 2500 habitants. La commune se développe et le village stagne. Pourquoi le village stagne? Parce que c'est un village situé en zone périurbaine, un village rural situé en zone périurbaine, et on constate, nous, que les commerces ont tendance à disparaître. Et je le souligne une fois de plus, par devoir, nous portons un projet par rapport à ce qu'on... Nous avons déjà un atout. L'atout, c'est sa position géographique naturelle, mais privilégiée par rapport à Montauban, qui va nous amener quelques années plus tard à 5 minutes de l'échangeur, d'autoroute, et à 40 minutes de Toulouse. On ne peut pas rester indifférent au développement de Montauban et au développement de Toulouse. Ce village a une réputation aussi d'être un peu village dortoir. Il y a très peu d'emplois sur la commune. Alors, nous avons un deuxième atout. Nous avons au cœur du village 2 hectares à notre disposition, sur lequel il y a un terrain de football et 2 terrains de football annexes pour les enfants. Et on a cette idée de faire une opération d'ensemble, regroupant à la fois dans une opération de mixage, les services publics, le logement social, le logement privé, les commerces et les services. La première mission pour nous, une fois que l'esquisse est dessinée, nous faisons une réunion publique de mémoire, c'était le 5 novembre 2002, donc ça remonte à quelque temps, pour présenter ce projet, qui n'est qu'en esquisse. Alors nous avons là une grosse opération d'infrastructure qui va nous porter à aménager des rues de village et à créer des rues de village.
C'est extraordinaire ça. D'avoir la possibilité aujourd'hui, en 2012, de faire du neuf.
Oui, c'est la chance aussi, la chance d'avoir ce terrain. Et il faut agrandir, et non pas déplacer, agrandir le cœur du village pour le rendre vivant et créer ce que l'on a appelé par la suite un centre de vie. Et il nous faut donc développer cette idée, aller vers un deuxième atout, et qui est une nécessité, on ne peut pas travailler seul, il faut passer par le partenariat. Alors nous avons esquissé toute la partie horizontale et souterraine, les réseaux et autres, et après on pense à l'élévation. Alors on s'est tourné vers Tarn-et-Garonne Habitat, avec lesquels nous avons fait une opération d'ensemble, et nous avons dessiné des bâtiments, des projets. À ces projets sont venus adhérer des commerçants, et notamment une enseigne nationale qui a retenu notre village pour s'installer, qui va devenir la locomotive du projet. C'est vraiment une épicerie de 800 mètres carrés, et des commerçants sont venus autour de cette place qui fait 3500 mètres carrés, qui a été arborée, qui a gardé son cadre champêtre. Et un peu, pour rappeler à certains l'origine de ce terrain, nous avons conservé l'herbe du terrain de football. Nous n'avons pas minéralisé la place, qui garde à ce village un cadre champêtre. Alors sont venus s'installer des professions de bouche, les boulangers, il y a également un boucher, charcutier, il y a des commerces fleuristes, des commerces de services. Il y a l'auto-école, un centre informatique, un magasin de bijoux. On a aussi un toilettage animalier et le Crédit Agricole, qui s'est installé non pas en agence, mais en permanence sur une centaine de mètres carrés, qui a la volonté de s'agrandir d'ailleurs en ce moment. On a des kinésithérapeutes, nous avons également une sage-femme, enfin voilà, coiffeuse que j'oublie, une laverie automatique, enfin, il y a quand même quelque chose.
Il y a un avant et un après, quoi.
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est totalement transformé. Ceux qui ont quitté Saint-Étienne depuis quelques années et qui reviennent aujourd'hui constatent quand même que c'est un village qui s'est transformé. On est parti dans cette direction, créer de la vie au centre du village. Mais on a fait un autre constat. Parmi nos, il y a énormément de résidences qui sont sorties de terre. Un exemple, les logements sociaux. Nous avions 23 logements sociaux. 3 ans après, nous nous retrouvons avec un portefeuille de 94 logements sociaux. Il y a eu énormément de résidences privées. Il y a un projet à 57 logements. Promologie est venue avec 37 logements. Guérilla avec 29 logements, Delia Sporting Village est venu avec 48 logements et des opérations privées. Nous-mêmes, commune, la municipalité, a deux lotissements, un de 7 lots et un de 12 lots. Donc, tout ça est situé dans le périmètre du village. Et pourquoi je parle du périmètre du village? Parce que dans le même temps, nous avons transformé le plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, en respectant la loi Solidarité Renouvellement Urbain. Et ça nous a permis également de projeter avec le plan d'aménagement et de développement durable. Donc les élus ont été amenés à réfléchir, non pas sur une durée très courte, mais sur une vingtaine d'années. L'important pour nous était d'essayer d'éviter les erreurs, d'implanter des bâtiments sans se soucier de leur rôle dans l'avenir. Et aujourd'hui, la place est ordonnée de cette façon. Il nous reste un terrain de 600 mètres carrés sur lequel l'un des commerçants a un regard très pointu, donc pour se développer. Voilà où nous en sommes aujourd'hui de ce développement des villages. Alors c'est vrai que le plan local d'urbanisme nous a amené à corriger le déséquilibre d'origine où on favorise aujourd'hui l'urbanisation en cœur de village et on voudrait alléger le diffus. Parce que il y a un coût économique supporté par l'ensemble des contribuables. Il faut amener des réseaux très en rase campagne. Et aujourd'hui, bien sûr, que les gens qui ont habité, qui ont construit en rase campagne, se plaisent là où ils habitent. Mais le village étant un village dortoir, les villageois travaillent à Montauban, à Toulouse aujourd'hui. Si on n'avait pas eu ce centre de vie, ils continuaient à faire leurs activités à l'extérieur. Alors, on a constaté un autre phénomène, c'est dans l'arrivée des nouveaux résidents. Alors l'espérance de vie s'allonge, tout le monde le dit, nous on l'a vérifié parce que dans nos projets sont venus se joindre des personnes qui prennent leur retraite jeunes à 60 ans. Ils ont une espérance de vie, ça leur permet de venir vivre dans cette région, Midi-Pyrénées, Tarn-et-Garonne notamment. On essaie d'expliquer aux uns et aux autres que le Tarn-et-Garonne à l'horizon 2040 sera sûrement dans le podium des départements nationaux dans, par rapport à son développement.
Bon, dites-moi, le fait d'avoir d'abord eu à faire un plan local d'urbanisme, ça veut dire qu'on se projette sur, vous l'avez dit vous-même, sur une longue durée. Est-ce que justement, c'est pas ce qui a permis que tout le monde se mette autour d'une table et réfléchisse ensemble et du coup, y ait levé ce qu'on a souvent quand on a un projet immédiat à réaliser dans l'année ou dans les deux ans, qu'il y ait des oppositions, des crispations, des choses comme ça. Y a pas eu ça à Saint-Étienne du Tout-le-Monde ?
Si, parce que j'ai failli l'oublier. C'est le partenariat aujourd'hui, c'est le constat que nous avons pu faire, nous élus. Je crois qu'il est vain de penser qu'on peut le faire soi-même en ignorant les personnes qui gravitent autour de nous. Alors les techniciens et les politiques. Nous avons, on va parler deux mots sur les aménagements d'entrée de village. Nous bénéficions là d'un partenariat de l'État, de la région et du département. On met l'accent sur les subventions croisées. Il n'empêche que le résultat est là. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat, mais qui s'est développé au-delà des institutionnels, nous sommes allés voir les constructeurs, les urbanistes et la Chambre de commerce, que j'ai failli oublier, qui a joué un rôle important dans cet aménagement.
Et la charte paysagère du pays Midi-Quercy a pu être utile,
non ? La charte paysagère, elle est inscrite, une partie est inscrite dans le plan local d'urbanisme. Alors, on arrive vers le village étant pas terminé, mais nous procédons aujourd'hui à l'aménagement des entrées de village. Pourquoi ? Pour faciliter l'accès des résidents, qui sont à 500 mètres du cœur, leur déplacement à pied. On a une population âgée, relativement âgée, qui est venue s'installer et qui apprécie...
Ou jeune avec des enfants.
Et oui, ça aussi.
Une poussette et l'aîné avec un vélo à trois roues, on n'a pas envie d'aller sur une route.
Alors, on a commencé ça sur 700 mètres sur une artère. On le poursuit cette année avec un chemin qu'on a fait sur 500 mètres également. Et la première tranche de ce projet pluriannuel des aménagements de village consiste à aménager une rue centrale du village, une des rues centrales, la rue de la mairie, qui aura ses déplacements doux, avec des trottoirs à 1,40 m, ça sera arboré, avec des parkings au bout, on soigne les entrées de village. Et ça, c'est important parce que ça permet aussi, nous sommes piétons, mais nous avons aussi des voitures. Et quand on est à bord de notre voiture, dans un village, on s'aperçoit qu'on est accepté, qu'on est toléré, mais on doit céder la priorité, naturellement, on doit céder la priorité, non pas par courtoisie uniquement, mais par sécurité, au vélo et aux piétons. On tend vers... c'est peut-être utopiste. Aujourd'hui, en 2012, ça le sera. On pense que ça le sera moins dans quelques années. Alors autant emboîter le pas à l'utopie.
Oui, et puis alors, si la convivialité n'est qu'une utopie, comment fera-t-on pour vivre ensemble, hein, puisque c'est ça que ça veut dire. René Collinet, maire de Saint-Étienne-de-Tulmont, je vous remercie.
Le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Laetitia Morabito, la charte forestière est bien en route et aujourd'hui il s'agit d'expliquer au grand public qu'est-ce qui se passe dans une forêt, les différences qu'on peut faire entre forêt privée, forêt publique, les essences, les bois, tout. C'est le jour du printemps, ça n'a aucun intérêt, mais les quatre saisons du bois, c'est un peu ça l'idée ?
Tout à fait. Donc comme vous le savez, le syndicat mixte du pays Midi-Quercy a élaboré une charte forestière de territoire au cours de l'année 2011. Donc une charte forestière de territoire, pour rappel, c'est un diagnostic qui a été élaboré. Donc un diagnostic du milieu forestier sur le territoire, mais aussi un diagnostic qui prend en compte les fonctions de la forêt. Donc on s'est intéressé à la gestion forestière, à la valorisation économique du bois, mais on s'est aussi intéressé aux fonctions sociales et environnementales de la forêt. Donc pour rappel, le territoire du pays Midi-Quercy dispose d'une surface forestière de 23% et cette forêt est essentiellement privée. C'est-à-dire qu'on a plus de 92% de la forêt qui est privée et avec plus de 10 000 propriétaires forestiers privés.
Ça veut dire des petits morceaux, quoi, en moyenne.
Tout à fait. Voilà, exactement. Donc on a aussi un enjeu de morcellement de la propriété forestière importante. Et donc au cours de ce diagnostic, un diagnostic partagé, donc il a vraiment été élaboré avec l'ensemble des acteurs, des partenaires de la forêt et de la filière bois. Donc au cours de ce diagnostic, on a mené une petite enquête auprès des propriétaires forestiers de plus de 4 hectares. Et donc au cours de ce questionnaire, en fait, les propriétaires se sont un peu exprimés sur la fréquentation de leur forêt par le public. Et donc ces derniers ont notamment mis en avant une certaine méconnaissance du grand public de la forêt, puisque nombreux sont ceux qui pensent que la forêt appartient à tous, qu'elle est publique. Or, comme je vous le disais, on est essentiellement sur de la forêt privée. Donc il existe un conflit à proprement parler, mais voilà, une certaine mésentente entre les propriétaires forestiers privés et le grand public. Et puis, d'une manière générale, ce qu'on se rend compte, c'est que le grand public méconnaît aussi la forêt de manière générale. Qu'est-ce que le milieu forestier? Quels sont ses enjeux? Et à l'heure actuelle où la forêt elle est au centre aujourd'hui des enjeux comme le changement climatique, comme la préservation de la biodiversité, on a décidé, en fait, dans le cadre du programme d'action de la charte forestière de territoire, de travailler à des actions de communication, de sensibilisation auprès du public. Donc justement, pour leur faire prendre conscience un peu de la richesse du milieu forestier, de tous les enjeux qu'il y a autour de la forêt. Donc c'est dans ce cadre-là que le syndicat mixte du pays Midi-Quercy, le CPE Midi-Quercy et puis aussi les organismes de la forêt, nous nous sommes associés pour organiser au cours de l'année 2012 ce que l'on a appelé les quatre saisons de la forêt. C'est-à-dire que l'on prévoit au cours de l'année 2012 quatre demi-journées pour faire découvrir ou redécouvrir au grand public, mais ça peut être aussi des propriétaires forestiers, des agriculteurs, que des randonneurs, etc. Donc faire découvrir quatre types de forêts que l'on peut retrouver sur notre territoire au fil des saisons. Donc la première journée sera organisée le 21 mars 2012, donc mercredi prochain, à Gennebrière. Donc rendez-vous à 14h, salle des associations. Donc on vous présentera ce qu'est la charte forestière de territoire un petit peu, et puis l'objectif par la suite, c'est de communiquer sur ce qu'est la propriété forestière privée, qu'est-ce que la gestion forestière. Donc on aura une partie en salle et puis l'objectif, c'est bien entendu par la suite d'aller sur le terrain. Donc on a monsieur Jean-François Clos, qui est le président des syndicats des forestiers privés du Tarn-et-Garonne, propriétaire forestier, qui va nous accueillir dans sa propriété forestière à Gennebrière et qui va nous faire découvrir un peu comment il gère sa forêt. Et puis c'est l'opportunité aussi de parler de tout ce qui est respect de la propriété forestière. Et puis on aura aussi l'opportunité d'avoir un témoignage de l'association intercantonale des propriétaires forestiers de bois. Donc c'est-à-dire une association qui gère un peu la cueillette de champignons autour de Veissac. Donc voilà, l'objectif c'est de parler gestion forestière, respect de la propriété forestière et puis de tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc avec bien entendu une communication entre le public et puis les acteurs qui seront présents. Donc ça c'est la première journée qui sera aussi journée du printemps et journée internationale de la forêt. Et puis on aura par la suite trois autres journées qui sont prévues. Une journée le 30 mai en forêt domaniale de Sarrette, à Nègrepelisse. Donc là, vous sera présenté un peu la faune, la flore que l'on peut retrouver dans cette forêt. Vous sera présenté aussi la gestion forestière par l'Office national des forêts qui est en charge de la gestion forestière des forêts publiques. On a prévu une autre journée au mois de septembre, donc le 21 septembre exactement, à Saint-Antonin-Nobleval. Donc là, nous allons découvrir la forêt communale de Saint-Antonin. Donc pareil, hein, petite balade en forêt qui est prévue, explication de la gestion en forêt communale et puis découverte aussi de la faune, de la flore sur ce territoire qui est notamment classé en Natura 2000. Et puis dernière journée qui est prévue dans le cadre de la fête de la châtaigne à la Guépie. Et donc là, on va essayer de redécouvrir un peu l'ancienne châtaigneraie sur ce territoire. Donc ces quatre journées, elles sont coordonnées par le CPE Midi-Quercy. Donc c'est eux qui ont été en charge d'organiser ces quatre demi-journées. Donc si vous voulez plus d'informations et pour vous inscrire notamment à cette première journée du 21 mars, vous pouvez vous adresser directement au syndicat mixte du pays Midi-Quercy. Donc vous pouvez appeler directement au syndicat, mais vous avez aussi les informations qui sont disponibles sur le site internet du pays Midi-Quercy.
Et pour des endroits à champignons, vous pouvez toujours rien me dire.
Je vais peut-être éviter.
Laetitia Morabito, je vous remercie.
Je vous remercie.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.